France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, une émission consacrée à deux livres qui interrogent la manière dont on grandit ou dont on tente de grandir dans un monde fracturé. Deux textes très différents mais habités par une même question. Qu'est-ce que la littérature peut faire des vies meurtries, des rêves interrompus, des histoires que personne ne raconte ?
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord l'écrivaine haïtienne Yannick Lahens pour Passagère de nuit chez Sabine Vespizère. Son roman qui a obtenu cet automne le Grand Prix de l'Académie française suit une lignée de femmes au 19e siècle dont l'histoire s'étend depuis l'arrachement d'une enfant vendue au marché aux esclaves de Saint-Domingue jusqu'à ses descendantes à la Nouvelle-Orléans et à Port-au-Prince. Yannick Lahens montre comment les violences fondatrices, la cale du bateau, la plantation, les humiliations domestiques continuent de modeler les corps et les désirs. Mais elle raconte aussi la transmission quand une grand-mère décide enfin de dire un peu plus de ce qui a été tu pour que les générations suivantes sachent d'où vient leur force. Nous accueillerons ensuite la journaliste et autrice Nora Amadi pour son récit paru chez Flammarion, La Maison des Rêves, une histoire des banlieues françaises. Dans ce livre, Nora Amadi revisite son enfance dans une cité de l'Essonne, la rocade de Longjumeau, et le lieu qui a tout changé. La Maison des Rêves, un local associatif où théâtre, danse, sortie, aide aux devoirs, ouvrait un horizon à des enfants qu'on disait sans avenir. Nora Amadi mêle souvenirs et enquêtes, désindustrialisation, disparition des éducateurs, enfermement des quartiers, stigmatisation scolaire. Elle raconte ce que les politiques publiques ont fait et défait dans ces espaces où la solidarité tenait encore le monde. Deux livres, deux écritures, mais un même geste. Redonner chair aux vies que l'histoire ne regarde pas pour comprendre ce qui se transmet, ce qui résiste et ce qui reste de nos rêves. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Nora Amadi, Yannick Lahens, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Yannick Lahens, vous êtes en duplex depuis les États-Unis, je crois.
Oui. Tout à fait.
Et vous avez passé la rentrée littéraire à Haïti ?
J'étais en Haïti au mois d'octobre. J'ai fait une vente signature. Et puis là, je retourne, j'espère, avant la fin de l'année. D'ici deux semaines.
Vous n'avez pas prévu de venir en France ?
Un peu compliqué de venir en France maintenant. Mais certainement, au premier trimestre 2026, je crois qu'au mois de mars, je vais aller au Maroc et en France. Voilà.
Alors vous écrivez, Nora Amadi, Yannick Lahens, l'une l'autre pour faire exister des vies et des histoires que l'histoire officielle ne raconte jamais. Nora Amadi, on trouve d'ailleurs cette phrase dans votre livre, « Nos histoires ne sont consignées nulle part ». Est-ce que la littérature, c'est aussi pour vous la possibilité d'archiver, de faire entrer les existences invisibles dans la mémoire collective ?
C'était clairement le postulat de départ en ce qui me concerne. Étant issu de quartiers populaires, des quartiers qui sont toujours racontés par d'autres et en général maltraités, souvent caricaturés, c'était important pour moi de rétablir une forme de vérité. Raconter par exemple à quel point c'est pas triste et sale et que le béton, et que tout n'est pas que précarité et désespoir. Parce que honnêtement, en retrouvant tous mes copains d'enfance et mes voisins, on a diablement fait la fête. On a fait que ça, je crois. Voilà, c'était beaucoup de joie. Donc, fallait pour moi raconter ça, et c'était aussi une manière de prendre une forme de revanche en disant que ces récits ne sont pas mineurs et que dans cette grande frise de l'histoire nationale, cette petite histoire de France à hauteur de cage d'escalier, elle raconte quelque chose de ces gens qu'on invisibilise parce qu'on estime sans doute, quelque part, qu'ils n'ont pas voix au chapitre et qu'ils n'ont pas le droit au récit. Et dans une certaine mesure, ces gens-là, ce sont aussi eux qui, des révoltes de 2005 après la mort de Ziad Benah et Bouna Traoré, au mouvement des Gilets jaunes en 2018, prennent les ronds-points, assument leur colère et racontent qu'ils ont besoin d'être écoutés, entendus et un besoin de dignité. Donc, à ma toute petite micro-échelle, avec le privilège de la parole publique que je peux avoir, c'est ce que j'ai essayé de faire, oui.
On n'invisibilise pas toute la banlieue, Nora Amadi. Est-ce que la banlieue que vous décrivez est plus invisibilisée que d'autres banlieues ?
Bien sûr, parce que la banlieue rouge, elle a toujours été racontée. Celle de la grande épopée du communisme municipal, qui a dans certaines villes 100 ans, d'ailleurs cette année, de Saint-Denis, Nanterre, à Gennevilliers, à Ivry ou Vitry. Ce sont des villes qui se sont racontées. C'est une banlieue rouge qui a archivé, qui a compilé et qui a dessiné une contre-histoire partie des luttes et des individus. Et moi, je viens de ce qu'on appelle la banlieue des champs. Et dans cette banlieue des champs, au milieu des moissonneuses-batteuses, dans cette zone 4-5, pour ceux qui ont connu la carte orange de l'époque, voilà, ça situera à peu près mon âge. Et ben en fait, tout ceci n'est même pas archivé. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on ne raconte pas, c'est qu'on archive même pas, et c'est ce que j'ai découvert.
Vous êtes allé aux archives de Longjumeau.
De Longjumeau, aux archives départementales, et en fait, il n'y a rien. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus terrible, c'est que tout ceci est en cours d'effacement, au gré aussi des rénovations urbaines qui sont en train de faire de cette mémoire collective des gravats, finalement.
Yannick Lahens, vous aviez, vous aussi, une volonté d'archiver des histoires dont on ne parle jamais?
D'abord, ça a commencé par le fait que je me suis heurtée à un premier silence autour de ma propre biographie, puisque mon arrière-arrière-grand-mère, j'ai su précisément à un moment de transmission d'une tante qu'elle venait de la Nouvelle-Orléans. Et puis, j'ai lié ça. Mais j'avais très peu de détails sur ce qu'elle était, pourquoi elle était arrivée là. Il y avait des tas de légendes autour de son arrivée dans cette ville, en Haïti. Ensuite, sur mon arrière-grand-mère que j'ai connue, son compagnon, qui est donc le fils de cette dame arrivée de la Nouvelle-Orléans. Là encore, beaucoup de silence sur cette biographie. Et j'ai commencé à faire des recherches sur la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle. Et je me suis rendu compte que les silences de ma biographie rejoignaient les silences de l'histoire officielle. Puisque la Nouvelle-Orléans était une ville-monde, c'est la troisième mondialisation, mais qu'on en parle peu. D'abord, l'histoire officielle haïtienne en parle très peu. Or, l'apport des populations arrivées de Saint-Domingue, que ce soit les colons, leurs esclaves, les affranchis, les Canadiens qui arrivent du Nord fuyant l'invasion anglaise, les premiers autochtones amérindiens autochtones qui laissent les réserves pour venir dans cette ville tourbillonnante, foisonnante, des aventuriers africains aussi, qui arrivent du continent africain. Donc tout ce monde-là se mélange. Et il y a une très grande influence aussi, un apport culturel de la population arrivée de Saint-Domingue, sur le plan culinaire, sur le plan les origines créoles du jazz, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui arrivent et leur musique rencontre les chants des plantations. Les pratiques religieuses, le vaudou dès 1817 est une pratique reconnue, enfin admise à la Nouvelle-Orléans.
Et donc c'est à ça que ça...
La langue
Yannick Lahens, c'est à ça que ça la littérature aussi, c'est à combler les trous,
alors,
les vides historiques aussi.
Dès qu'il y a de l'irrésolu, justement, et dès qu'il y a des silences, je crois que ce texte m'a permis de combler ces murs de silence, un premier mur de silence autour de ma biographie, le deuxième mur de silence autour de l'histoire officielle. Mais c'est plusieurs histoires officielles, parce que cette histoire concerne aussi la France, qui ne parle pas de cette ville-monde qu'est la Nouvelle-Orléans et qui va être transformée quand Napoléon va vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.
Et justement, pourquoi on ne parle pas de cette histoire ?
Eh bien, parce que, vous savez, ceux qui font l'histoire, il y a des pans de l'histoire qu'ils mettent obligatoirement sous silence pour que la narration qu'ils font puisse correspondre à une certaine image du monde, à une certaine idéologie du monde, à un certain imaginaire du monde aussi. Et c'est comme ça qu'on crée des imaginaires pour des générations et des générations, en mettant sous silence un certain nombre de faits historiques.
Bon, vous comprenez mieux pourquoi je vous ai mis ensemble, Nora Hamadi. Vous aussi, l'histoire de la banlieue, c'est une histoire aussi c'est une histoire passée sous silence. Vous montrez d'ailleurs comment le regard porté sur la banlieue a changé, comment cette banlieue qui était vue quand même comme solidaire, vivante, est devenue une banlieue à problème.
Ça, c'est quelque chose qui est aussi lié à qui habite la banlieue, parce qu'il y a pas. C'est bien pour ça que je parle d'une histoire des banlieues françaises, parce que Neuilly-sur-Seine, c'est la banlieue, parce que Saint-Cloud, c'est la banlieue, parce que Sceaux, c'est la banlieue, mais on ne parle pas de cette banlieue-là, et il était important pour moi déjà de renverser ce stigmate, de sortir des silences aussi, parce que, comme on l'entendait à l'instant, en fait, on est toujours raconté par d'autres, parce que finalement, c'est les perdants de l'histoire qui n'ont pas voix au chapitre. Et c'est ce que j'entends aussi en résonance avec ce qui s'est passé en Haïti. Et ce qui est terrible, c'est que l'un dans l'autre, c'est aussi des histoires d'empire. Et tout ceci est un long continuum hein, des espaces de colonisation et de cette manière dont on a considéré ces individus sauvages indigènes comme étant des individus à écraser, à dominer, qui étaient finalement des biens meubles. Et là, dans ce continuum qu'est la banlieue, parce que ce sont en fait des espaces qui sont héritiers des empires, parce qu'il a fallu déjà venir reconstruire la France. Moi, je raconte l'histoire de mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père, ascenseuriste, qui a construit en fait ces grands ensembles. Donc tout ça est un héritage de ces espaces, de ces rapports de domination. Voilà, qui a donné l'esclavage, qui a donné la colonisation, qui a donné tout ça. Et dans ce continuum, en fait, ceux qui sont silencieux, c'est ceux qui déjà n'avaient pas voix au chapitre. En fait, on crée ce problème des grands ensembles dès la fin des années 60, les premières occurrences de cette thématique arrive dans l'actualité dès la fin des années 60, alors que la plupart ne sont même pas encore finis de construire. Et derrière, et c'était pour moi important de raconter ça, c'est que la petite musique qu'on entend depuis quelques années, désormais, c'est qu'il y aurait une forme de séparatisme, d'incapacité de ces populations en fait, à s'intégrer, à s'assimiler dans le corps français, et je dis bien un corps au sens presque physique du terme. Nous serions, dans ces logiques de descendance de sauvages, des anomalies en fait, à effacer. C'est aussi tout ce qu'on raconte autour de la figure du nuisible qui est arrivé dans les expressions françaises, dans la bouche de Monsieur Chevènement dès la fin des années 90 avec les sauvageons, et puis la racaille que Nicolas Sarkozy voulait nettoyer au Karcher. Et c'est ça pour moi qui était aussi important de raconter, c'est qu'est-ce que ça fait au corps, qu'est-ce que ça fait en termes d'effacement, et pourquoi il est important aussi de rétablir une histoire par les faits. Et c'est là que, au travers de cette petite histoire d'une petite ville à 19 km de Paris avec son quartier populaire, repartir des faits et repartir des gens, cette petite histoire de France à hauteur de cage d'escalier, c'est aussi raconter qu'en fait, celle qui s'est séparée, c'est la République. A-t-elle été même une fois présente? Elle l'était au travers de ce que moi je raconte, ces petits strapontins, cette maison des rêves qui a été un local entre deux bâtiments où on a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, elle n'existe plus. Donc, celle qui s'est séparée, voilà, c'est la République qui s'est barrée.
Vous écrivez dans votre livre. Dans Amadi, vous parlez justement des faits, de l'importance des faits. Vous, Yannick Lahens, vous avez choisi la voie romanesque.
D'abord, je n'avais pas terminé sur les silences, parce qu'en dehors du silence autour de la biographie, de l'histoire officielle, il y a le silence autour de la parole des femmes. Et là encore, je découvre l'importance des femmes dans l'histoire et la manière dont elles transmettent ce qu'elles ont vécu par leur corps, comment elles développent une stratégie pour des victoires à bas bruit, comment elles ne s'enferment pas dans la victimisation et comment elles sont arrivées à jouer un rôle fondamental et majeur dans la construction de cette société haïtienne d'aujourd'hui. Une force que l'on retrouve encore dans la puissance des femmes aujourd'hui qui ont créé le marché national qui existe. Ce sont elles qui ont fait le lien entre la campagne et la ville. Ce sont elles qui aujourd'hui occupent l'économie informelle, dominent l'économie informelle. Et ce sont elles aussi qui transmettent dans les familles monoparentales des villes, qui transmettent les valeurs, l'éducation, qui sont des femmes responsables, des femmes économiquement indépendantes. Et c'est cette force-là dont on parle peu, puisque les projets officiels reprennent des modèles économiques, politiques, à l'image de modèles occidentaux, et ne prennent pas en compte cette puissance économique, culturelle, sociale des femmes.
Alors justement, il y a une différence.
Et cette parole, je voulais justement qu'elle soit présente et qu'on voit comment il y a la transmission de ce savoir-faire, de savoir-être, et comment les armes du silence, les armes précisément de l'effacement voulu, peuvent amener vers ces victoires à bas bruit du quotidien.
On va en parler dans un instant. J'aimerais justement qu'on parle des femmes dans vos deux livres, Yannick Lahens, Nora Amadi. On revient dans quelques minutes.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueilli raisin de Corinthe, épêche, rubis, marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. S'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Feu Chatterton, Le Labyrinthe. Nous sommes toujours en compagnie de l'autrice et journaliste Nora Hammadi et de la romancière Yannick Lahens. Il y a une figure dans vos livres à chacune qui est en fait... la même, c'est la figure de la grand-mère. Qui est Florette Dubreuil dans votre livre, Yannick Lahens ? On parlait des femmes il y a quelques instants.
Florette Dubreuil, c'est une esclave affranchie. Et c'est une esclave, évidemment, qui a été victime de viol, puisque vous savez que dans le système de l'esclavage, dans le système de la colonisation, le maître était aussi maître des cuisses des femmes. Et du corps des femmes. Donc,
et même de leur ventre.
Absolument, et nous étions, enfin, les femmes, nous sommes héritières de ce traumatisme-là, quelque part. C'était une manière pour moi aussi de montrer comment les femmes vivent cet affront quotidien, cette souffrance dans leur corps, ces stigmates au quotidien, et comment le processus de l'affranchissement est ce qui va aussi nous créer le métissage en Haïti, qu'on le veuille ou non. Pour moi, le roman est intéressant parce que c'est un espace où on peut faire montrer la complexité et les contradictions de l'être humain. Puisque un roman, ce n'est pas une tribune, ce n'est pas non plus une pétition. Et ça montre l'infinie possibilité des réalisations humaines, de la psyché humaine. Et pour moi, c'est un espace magique de ce point de vue. Donc Florelle Dubreuil, c'est une ancêtre que j'ai imaginée, puisque ce n'est pas un roman biographique, dans la mesure où, à cause de ces silences de ma propre biographie, la littérature est venue à mon secours, précisément pour que je puisse imaginer des vies.
C'est comme c'est ce que dit Laurent Mauvigny aussi dans son livre. C'est effectivement comment on comble les vides de l'histoire par l'imagination.
Absolument, et l'imagination est puissante de ce point de vue. Et donc c'est elle qui va commencer la lignée. Bon, elle raconte sa propre mère, elle raconte la traversée. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature haïtienne, on ne raconte pas beaucoup la traversée, alors que c'est une thématique extrêmement importante dans la Caraïbe anglophone, chez les auteurs noirs américains, la traversée. Mais comme on a fait 1804, il y a comme une sorte de fierté de dire, voilà, comme si 1804, la révolution haïtienne, on est tout effacé.
Première république noire.
Absolument. L'imaginaire colonial perdure. Et même après 1804 et jusqu'à aujourd'hui, l'imaginaire colonial perdure. C'est l'imaginaire qui domine le monde, de toute façon, jusqu'à maintenant. Et donc, c'était une manière pour moi de montrer le tracé d'où nous sommes venus et comment nous sommes arrivés aujourd'hui.
Et Florette Dubreuil, c'est aussi...
Florette, c'est vraiment un point de référence pour moi dans le livre.
Oui, bien sûr, c'est la gardienne des traces, des traditions, des souvenirs. Et vous, Nora Madi, votre grand-mère, vous, c'est votre vraie grand-mère, vous écrivez que quand vous étiez petite, c'est elle qui vous gardait, que vous n'aviez pas de nounou, pas de crèche. Quelle relation vous aviez avec elle ?
Celle d'une deuxième mère, finalement, puisque c'est elle qui m'a élevée. Ma première langue, ma langue maternelle est celle de ma grand-mère. Donc ça dit quelque chose d'un rapport aussi filial, quoi. Non, c'est quelque chose de très fort.
Est-ce que vous pourriez nous lire le tout début de votre
C'est une torture de m'avoir...
Je sais que c'est un passage qui n'est pas facile, mais c'est... Enfin, bon, je trouve que quand on ouvre votre livre, on entre tout de suite dedans. On peut pas le lâcher parce qu'on commence par ces pages.
Ça y est, c'est fini. J'attendais cet appel depuis des semaines ou des mois, je ne sais plus. Il est 6h15, ce 17 janvier 2014, je suis en apnée. Je me lève, je m'habille, j'attrape les clés de la voiture et roule dans un silence épais jusqu'à l'hôpital d'Arpajon. Elle est déjà froide quand j'arrive. Ses doigts pétris par la polyarthrite sont posés délicatement sur le drap. Ses longs cheveux gris détachés tapissent l'oreiller fin. Son visage est émacié, creusé par l'absence de dentier. Je n'ai jamais connu ma grand-mère avec ses vraies dents. Pleurer ici, maintenant. Dans quelques heures, ce sera le tourbillon, les gens, les voisins, la famille. Il faut acheter du café, du thé, de la menthe, des jus de fruits, récupérer les thermos chez la tante, penser à demander des chaises aux voisins. À quelle heure ouvre au champ déjà ? Dans quelques jours, la mise en bière, l'aéroport, la maison à ouvrir en Algérie, les proches qui auront fait des heures de route pour la dernière veillée, les champs et la mise en terre, face au plus beau panorama de Kabylie. Le 21 janvier, au petit matin, j'ai passé une dernière fois à la porte de cet appartement que je connais depuis plus de 30 ans. J'ai regardé les meubles, virgule...
C'est bien,
c'est clair. J'ai regardé les meubles, les enfilades de service à café quasi neufs. Et le balcon, d'où perçait une lumière chaude qui baignait les pots de fleurs, les boutures et les plants de tomates et de poivrons qui renaissaient chaque été, direction Orly. Ce fut mon dernier jour à la cité.
Mais disons que c'est dur.
C'est très dur.
La lecture à voix haute, c'est encore un autre...
Alors la lecture à voix haute, mais qui aussi renvoie à la difficulté d'écrire. Parce que, et c'est ça qui est difficile quand c'est pas, je pense, un personnage romanesque. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un accouchement, en fait, à aller chercher ce qui est une part de soi, d'émotion. Et puis, comment créer de l'universel avec une histoire particulière ? Et je pense que face au deuil, face à la mort, et puis face à aussi ce lien qu'on a avec son pays d'origine, ou du moins le pays de ses parents, face à ce qui est aussi... cette vie de village, quand je raconte voilà, rapidement la veillée, les voisins...
Je vous l'ai fait lire parce que c'est un passage qui m'a émue, justement. Et il m'a émue pour une raison, c'est votre sens du détail. c'est qu'effectivement, raconter la mort, le deuil, ça peut se faire de différentes manières, mais je trouve que c'est par ces petites choses, c'est aller chercher le thé à la menthe, ces rituels, ces actions. Et c'est vrai que vous avez ce sens du détail quand même dans tout votre livre.
Bah pour moi, c'était important en fait, qu'on puisse réussir à se situer. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste de ces moments-là, si ce n'est justement ces détails, l'émotion, je pense que... Et voilà, l'absence, les silences, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et je pense qu'il n'y a pas nécessité de les verbaliser pour qu'ils existent. En revanche, voilà, ce thé à la menthe, le fait de penser au café, de rentrer dans le tourbillon de ces moments qui sont pour des gens issus de communautés villageoises, pour des logiques un peu tribales, comme celles qu'on peut avoir chez les Amazirs de France, donc chez les Kabyles, il y a quelque chose, en fait, d'extrêmement fort, à mon sens, de se rattacher, en fait, à ces détails-là. Parce que finalement, c'est souvent ça qui reste. Se raccrocher, en fait, au quotidien, à ce qui crée des formes de routine qui nous permet de dépasser la douleur, finalement. Et c'est là l'enjeu. Et c'est pour ça qu'en fait... Alors déjà, ça a été extrêmement long à écrire, parce que c'est... Comment on raconte ça? Comment on
c'est
raconte
ce passage en particulier, oui, qui était plus difficile.
Ouais. Après, le reste, finalement, c'est une question de souvenir et de faire remonter, en fait, de vieilles images à la mémoire. Mais qu'est-ce qu'on dit à cet endroit-là? Parce qu'on a tous, je pense, traversé ça. Alors, qu'est-ce qu'on raconte et comment faire en sorte de rendre ça palpable? Et je ne voyais pas autre chose que cette histoire de dentier qui, pour la première fois, en fait, du coup, n'aura plus été porté. Ce chignon détaché, et pour une fois, il n'y avait plus...
C'est des images qui restent.
Oui, c'est des images qui restent. Et je pense que, en fait, quand on est face à ces moments-là, c'est ces images-là qui restent. C'est qu'est-ce qu'on a fait, à quelle heure on y était, et puis où est-ce qu'on s'est garé. Et voilà. Et je crois que là-dessus, c'est souvent... On me dit souvent que cette page, elle fait toujours... voilà, elle résonne, mais parce qu'en fait, je crois que c'est quelque chose d'un peu plus universel.
Et l'émotion passe par ces détails. Nora Amadi, chaque semaine dans l'émission, nous recevons des libraires francophones. Aujourd'hui, nous partons pour le Québec. Nous retrouvons notre libraire Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour.
Je crois savoir que le roman de Nora Amadi a été une vraie découverte pour vous.
Oui, vraiment une très très belle découverte. Bonjour Nora Amadi.
Bonjour.
Alors, je sais que toute petite, vous rêviez de devenir cantatrice. Je ne vous ai jamais entendu chanter, c'est vrai. Mais à la lecture de votre livre, j'ai découvert une voix forte, subtile et émouvante, c'est vrai. La Maison des rêves est un livre vaste, engagé, oui, journalistique, mais à la fois tellement personnel. Et vous passez d'un registre à l'autre avec une facilité et un sens de la nuance aiguisée. Tout au long de notre lecture, nous sommes nourris d'informations pertinentes sans jamais entraver le côté sensible de votre histoire. Vous montrez très clairement la réalité des cités de votre enfance où la solidarité, l'engagement, l'esprit communautaire, ce petit supplément d'âme, pouvaient être si bénéfiques à leurs habitants. Mais ce livre est aussi le récit de votre retour sur ces lieux de votre enfance après plusieurs années, et les changements sont choquants, dont le désengagement politique, entre autres. L'esprit communautaire ne survit pas dans des conditions sociales et des infrastructures laissées à l'abandon. Vous dites « Longjumeau a plongé, comme toutes les villes moyennes, dans un schéma d'enfermement dont personne ne semble savoir encore aujourd'hui comment en sortir. » Vous abordez aussi, entre autres, les émeutes de 2005 qui ont embrasé la France, des images qui m'avaient évidemment troublée à l'époque. Mais vous, vous nous les faites voir de l'intérieur.
Et vous avez aussi lu la page des remerciements, Katia.
Oui, oui. À la toute fin de vos remerciements, vos derniers mots sont ceux-ci. Nos récits ne sont pas mineurs. Effectivement, ils ne le sont pas. Merci, Nora Amadi, pour ce livre qui m'a marquée. Et j'espère réellement qu'on saura, un jour, recommencer à écouter les gens chanter autour de nous. Comme l'ont fait ceux qui ont croisé la route de votre grand-mère qui chantait constamment.
Et vous aviez une question pour Nora Amadi, Katia Courteau.
Il y a deux époques, deux temporalités bien marquées dans votre livre. Je sais, hélas, qu'un retour en arrière n'est pas possible. Mais en tant que journaliste, en tant que témoin embarqué dans cette réalité, quel avenir voyez-vous pour les banlieues et où trouver de l'espoir?
Je dirais qu'il suffit de pas grand-chose, parce que c'est ça aussi l'apport, je pense, des faits dans ce livre. C'est que je raconte que ces petits strapontins dont ma génération a bénéficié sont pas fous. Voilà, c'est un local entre le bâtiment B10 et B11, une presque cave finalement, c'est quelques animateurs, c'est des centres de loisirs, c'est des activités, c'est la piscine, c'est des clubs sportifs. Donc il suffirait finalement de pas grand-chose pour que à nouveau le pacte républicain, ce contrat social qui nous fait dire que normalement en France, il y a une forme, voilà, il y a la liberté, il y a la fraternité, mais il y a l'égalité aussi. Voilà, il suffirait peut-être de pas grand-chose. Maintenant, c'est une question à la fois de moyens, certes, mais surtout de volonté politique. Et à l'autre bout du spectre, moi, je vois, parce que je continue, en fait, à traîner mes guêtres dans plein de quartiers de France, que l'envie, elle est là, que des associations, des militants, des voisins, des parents, en fait, s'engagent, font tout pour que leurs gamins puissent accéder, en fait, à ce rêve, à leur rêve, et en fait, puissent rêver fort comme nous, on a rêvé. Et ça existe, en fait. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à créer. Encore faut-il qu'on les soutienne. Et je trouve que depuis quelques temps, en ce moment, voilà, on les voit plutôt comme des empêcheurs de tourner en rond, alors qu'on aurait plutôt besoin de cette énergie-là pour donner à voir cette jeunesse et leur permettre d'ouvrir les horizons, tout simplement.
Merci beaucoup, Katia. Yannick Lahens, Nora Hammadi, dans un instant, on abordera une autre question essentielle de vos deux livres, la question de la langue.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. Avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. La pluie, à force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Claude Nougaro, La pluie fait des claquettes. Et nous sommes toujours en compagnie de la romancière haïtienne Yannick Lahens et de l'autrice et journaliste Nora Hammadi. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première.
au livre, etc. Lilia Hassen.
Nora Hamadi, Yannick Lahens, la question de la langue est centrale dans vos livres. Yannick Lahens, pour vous, la langue, c'est la possibilité de se soustraire à la domination et de se fabriquer un espace intérieur qui échappe au maître. Vous écrivez « Chez Manjo, j'ai appris les rudiments de la lecture. Je pouvais dresser une liste, signer mon nom ou écrire quelques mots. Dans sa tête, c'était déjà quelque chose de pris à l'ennemi. Tu sais quelque chose de lui, mais lui ne sait rien de toi. Manjo aimait qui elle était, cultivait une ruse acérée comme des dents pour mordre ce monde d'en haut qui méprisait sa langue illégitime, ses croyances illégitimes, sa peau illégitime. Comment avez-vous travaillé cette idée que la langue, donc lire, écrire, nommer, pouvait devenir un acte de liberté pour vos personnages, Yannick Lahens ?
D'abord, c'est créer dans le français, que j'utilise, un espace mental créole. Et j'ai énormément travaillé la forme en ce sens.
Vous avez conservé le créole d'ailleurs dans le texte ?
Absolument. Pour pouvoir garder ce rythme, parce que le rythme est très important pour moi dans l'écriture, je mettais les traductions françaises en imposition. Je ne voulais pas d'un glossaire en bas de page, parce que je ne voulais pas que le lecteur soit coupé de ce rythme-là, de la phrase, de la musique de la phrase. J'ai essayé de faire du français un lieu de parole haïtienne. Donc c'est un rythme altéré. En ce sens, pour moi, c'est la perspective de renversement, finalement, du savoir colonial. Et j'ai été même étonnée que le livre ait reçu le prix de l'Académie française.
Mais oui, c'est génial, c'est ce que j'allais vous dire.
Parce que moi, de toute façon, quand j'écris, je vis en Haïti, et j'écris à partir d'Haïti, et quand je vis en France, les quelques fois ou rares fois où je vis en France, je n'ai jamais le sentiment de venir d'une périphérie. Jamais. D'abord parce que je crois très fermement que tous les lieux du monde sont porteurs d'universel. On y décline la condition humaine d'une façon. Particulièrement quand je viens d'Haïti, je sais que c'est la troisième révolution des temps modernes. C'est la première qui montre au projet de la modernité ses contradictions et ses limites. J'habite un lieu où on a énormément développé ce sens de vivre dans l'urgence. L'urgence ne nous a jamais quittés. Les rapports nord-sud n'ont jamais changé, donc l'urgence ne nous a jamais quittés.
Yannick Lahens, la langue française, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous ?
Comment je pourrais dire ça ? Un acquis, c'est une langue où on a déjà tout un patrimoine, en français, mais le créole demeure la langue de tout le monde.
C'est la langue que vous parlez ?
Oui, dans la vie de tous les jours, oui, je parle créole. Et c'est vraiment une langue aboutie, c'est une langue, il y a une académie du créole, c'est une langue officielle aujourd'hui. Les jeunes générations d'ailleurs d'écrivains écrivent indifféremment dans les deux langues. Il y a eu une période de militance pour que le créole devienne langue officielle, ça y est, c'est fait depuis 1987, pardon. J'ai donc deux fers au feu, c'est formidable. En même temps, il y a toutes les migrants qui sont partis aux États-Unis utilisent l'anglais, et je pense que nous sommes déjà en train de faire avec la littérature, sans compter ceux qui sont en Amérique latine, écrivent en espagnol, nous sommes en train de faire ce rêve d'Edouard Glissant, qui est que le multilinguisme, c'est l'avenir.
Nora Hamadi, chez vous aussi, la langue est un territoire. Vous écrivez au sujet de votre grand-mère. Ce n'est pas de l'arabe, c'est une langue amazie. Ou berbère en français, mot dérivé de barbare, que personne ne comprend, ni les voisins, ni les copains, ni les instituteurs de l'école, ni les dames de la PMI, ni les employés de la poste, de la mairie ou de la bibliothèque. Une langue de l'exil qui condamne ma grand-mère à rester seule dans ses pensées et à regarder vivre les autres.
Je crois que c'est aussi assez classique d'une trajectoire d'exil. Arriver dans un pays dont on ne maîtrise ni la langue, ni les codes, c'est d'une violence absolument terrible. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas se figurer ce que ça peut représenter.
Et vous êtes entrée à l'école sans parler le français ?
Oui, tout à fait. Parce que c'était presque une condition sine qua non pour mes parents que j'apprenne le kabyle. Donc c'est ma première langue, donc je rentre à l'école sans parler français. Mais j'ai un souvenir extrêmement fort de ces flashs où en fait on est dans un environnement où on ne comprend absolument rien et où on est étranger et où finalement on subit absolument tout.
Et ce qui est fou, c'est que vous êtes plus étrangère finalement à ce moment-là que dans ce que dit Yannick Lahens en venant d'Haïti.
Mais complètement. Et c'est là, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fort avec l'exil. Et pardon, hein, Yannick, c'est pas... Enfin voilà, je pense que quand on a le colon qui arrive et qui impose son espace et que vous pouvez encore continuer à être un espace de résistance dans votre langue, c'est pas la même chose que quand vous arrivez, en fait, dans un autre pays avec votre propre langue et qu'il est peut-être à 60 ans, enfin voilà, presque déjà trop tard pour vous mettre...
En apprendre une autre. Yannick Lins, vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense que les luttes sont différentes. Oui. Elles ont peut-être certainement un substrat commun, mais les luttes sont différentes,
mais c'est la lutte continue rapport, jusqu'à c'est, présent. C'est pour ça que c'est pas le même rapport aussi à la langue française.
Absolument.
Dans vos deux livres, en tout cas, il y a un point commun et quelque chose d'essentiel, c'est le silence. Le silence comme arme ou comme refuge. Est-ce que le silence, pour vous, est aussi une forme de langue, Yannick Lins ?
Absolument. Je pense qu'il y a même, en créole, quelque chose qu'on appelle le parler en daki. Je crois que c'est une forme de résistance depuis la colonisation et l'esclavage. C'est une manière de contrer l'autre, celui qui domine. Le silence est une arme parce que de toute façon, il ne sait pas ce que vous pensez. Mais vous savez ce qu'il pense. Donc vous avez cette longueur d'avance. Et le silence devient une arme puissante. Elle est souveraine. Et les femmes, d'ailleurs, dans mon texte, dans mon roman, utilisent cette arme redoutable qu'est le silence. Et elles arrivent précisément à marquer ces victoires à bas bruit avec le silence. Le silence est une langue puissante.
On va partir désormais à Brive-la-Gaillarde pour retrouver Élodie Martin de la librairie La Baignoire d'Archimède. Bonjour Élodie.
Bonjour Lilia, bonjour Yannick.
Alors vous êtes une fidèle lectrice de Yannick Lins et vous avez adoré embarquer avec elle dans ce nouveau roman.
Oui, effectivement, c'est une joie d'avoir la chance de vous parler, Yannick Lins, parce que j'ai voyagé en compagnie de vos passagères de nuit. Je dis bien voyager car cet été, j'étais en immersion totale durant ma lecture. J'étais à leur côté, suivant les lignes de la cartographie sensible que vous tracez, dessinant une boucle qui va de Saint-Domingue jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour revenir jusqu'en Haïti. Et j'ai découvert l'histoire de vos aïeuls et bisaïeuls, en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire que vous avez construite en remplissant les trous. Et tout ceci enveloppé d'une chaleur singulière par votre langue, métissée, vivante, imagée, poétique. J'associe, je dois vous dire, chacun de vos romans, et ce dernier ne fait pas exception, à l'image d'un volcan, paisible en apparence, empli d'un grondement sourd, d'un sommeil agité, d'une vie qui se réclame. Les corps, leur sensualité, les danses, l'amour... Tout cela participe à cette figuration pour moi.
Et je crois que ce que vous avez aimé, Élodie, et c'est mon cas aussi, c'est ce lien que fait Yannick Lins entre l'intime et la grande histoire qui s'incarne dans le corps de ces femmes.
Oui, en effet, Lilia. À travers votre talent de conteuse, Yannick se dessine une généalogie de femmes qui se sont heurtées à la brutalité des hommes, toujours esclaves de la domination des uns, de la faim des autres, des frustrations ou des envies de leurs semblables. Chacune d'entre elles, silencieusement, a défendu sa liberté et entretenu le feu de sa joie, comme vous l'exprimez si bien dans un passage de votre livre. À travers ces trajectoires, vous interrogez la transmission, celle du sang, de la douleur, mais aussi de la dignité et de la lumière intérieure. Je dois dire que Passagère de nuit, pour moi, est un magnifique roman, vibrant d'humanité, où s'entrelacent mémoire familiale, violence coloniale et quête d'affranchissement. On referme le livre en portant en nous, comme ça, la mémoire de ces héroïnes, inoubliables, sœurs de galère et de courage, porteuse d'un éclat semblable dans le regard et d'une force de vie admirable. Les membres de l'Académie française ont salué votre talent. Eh bien, je me joins modestement et sincèrement à eux pour vous applaudir, Yannick Lins.
Merci Elodie, je réagis à ce que vous venez de dire. La joie, c'est une forme de résistance, Yannick Lins ?
Ah, tout à fait, c'est une forme de résistance. Et j'en ai fait l'expérience au moment où j'écrivais ce texte, dans un contexte extrêmement difficile. La violence avec la montée de la force de feu des gangs à Port-au-Prince. J'entendais des tirs au loin derrière chez moi, avec les carences de médicaments, avec un quotidien qui devenait de plus en plus difficile. Et je pense que je me suis inspirée de la force de ces femmes, non seulement pour tenir dans mon quotidien, mais aussi pour cultiver la joie, parce que j'ai des rencontres rituelles tous les dimanches avec un groupe d'amis, des musiciens, des poètes... Et nous maintenons ce rituel de l'amitié justement pour nourrir la joie, pour qu'elle soit présente.
Vous aviez une question pour Yannick Lins, Élodie.
On l'a stipulé à plusieurs reprises, le silence est au cœur de vos écrits. On vous a transmis son pouvoir de rébellion et d'affirmation. Il est criant lorsque vous le retranscrivez dans vos romans en décrivant la posture du corps ou la portée d'un regard. Est-ce qu'écrire, n'est-ce pas votre façon de rompre cette filiation du silence et finalement de donner une voix audible à toutes celles qui ont dû la contenir, voire l'étouffer ?
Absolument, absolument. Et écrire, pour moi, la littérature, à ce moment-là, le roman, c'est là où il y a de l'irrésolu, là où il y a précisément ce qu'on ne peut pas dire, utiliser la langue, utiliser la littérature pour pouvoir le dire, pour pouvoir mettre à plat ces choses irrésolues, ces paroles tues, ces frustrations, et en même temps, parler de la joie aussi. Parce que la joie, on n'a pas encore assez mesuré la portée de la joie, la capacité tous les jours de la nourrir, de la travailler pour qu'elle fasse de nous justement ces porteuses d'avenir et de lumière.
Merci Élodie. Nora Hammadi, quand vous entendez parler de joie, moi je pense à votre livre, à cette maison des rêves.
Oui, mais en fait j'acquiesce parce que la joie est un moteur des luttes. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas en tête, c'est que dans les luttes, notamment en quartier populaire, mais bien plus, je pense aujourd'hui aux luttes sociales, que ce soit aux luttes écologiques, cette joie militante est véritablement en fait à la fois un socle, c'est une manière en fait de faire communauté. Je parle d'un droit à la fête dans les quartiers populaires, parce qu'en fait ça a été véritablement un ciment communautaire, et ce ciment communautaire est lié à la joie qu'on avait d'être ensemble, et non pas de vivre ensemble, ce qui ne veut rien dire, mais bien de faire, et de faire la fête, de faire à manger, de construire quelque chose d'une famille et d'une ville-monde à hauteur de cage d'escalier, à hauteur de cité, et ce qui a permis de créer les conditions de lutte sociale qui n'auraient pas pu exister sans cette joie. Et je crois fondamentalement qu'on n'aurait pas pu lutter comme on a lutté au sein de ce quartier et bien plus ailleurs, puisque je traîne mes guettes, je le disais, dans plein d'autres quartiers en France. Et je vois des gens qui luttent et ces gens sont heureux. Et je pense que cette joie est aussi un signe d'un profond optimisme, parce que finalement, c'est se dire que ce sera meilleur demain. S'il n'y avait pas à la fois cette forme de colère et cette joie d'être ensemble et de faire ensemble pour imaginer et dessiner un meilleur avenir, on serait finalement dans des formes de renoncement qui nous font dire à quoi bon. Et là, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre encore plus à cultiver, parce que c'est peut-être par la joie qu'on arrivera à raconter et à dessiner autre chose.
La joie est politique. On poursuit cette conversation dans quelques instants avec les conseils lecture de la semaine, mais d'abord on écoute Camille Mbé encore.
Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassée vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassée vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, de posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, de posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Tu te demandes si je suis tombée sur la tête. À parler d'espace, de chimères et de comètes. Je fais le compte des amours perdus de mes têtes. Mais toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Je collectionne les coquillages, les parenthèses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas d'être à l'ouest? Sans faire exprès, j'étais pareillé mes chaussettes. Et toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de la romancière haïtienne, Grand Prix de l'Académie française 2025, Yannick Lahens, et de la journaliste et talentueuse autrice Nora Hammadi. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassel.
Et j'aimerais qu'on retourne du côté du Québec pour retrouver notre libraire, Katia Courteau, qui a adoré votre livre, Nora Hammadi. Katia Courteau, est-ce qu'au Canada, vous faites le même constat sur les banlieues, ou est-ce que vous avez eu l'impression de lire une analyse typiquement française?
Ben, en fait, justement, Nora Hammadi, votre livre s'inscrit, c'est vrai, dans une réalité assez différente. Les banlieues américaines sont basées sur le modèle de la maison individuelle. Et je vous avoue que ça reste quand même encore assez calme dans nos banlieues, même si... Donc, on ne vit pas exactement la même chose. Par contre, je vois qu'il y a quand même un processus, un certain processus de repli sur soi. Et justement, j'aimerais vous proposer un coup de cœur, qui est un essai qui s'appelle « Nous serons un village au cœur de la ville ». Il est écrit par Florence Sarah G. Ferraris aux éditions Atelier 10. Alors, j'ai trouvé dans ce livre un écho assez incroyable à votre livre, Nora Hammadi. Cette journaliste engagée en politique municipale, aussi formée en urbanisme, propose de repenser notre façon d'aménager le territoire que nous habitons. Elle montre comment le modèle, justement, de la maison individuelle des banlieues, qui apparaît dans la période de l'après-guerre, ce fameux rêve américain, n'est plus adéquat, et comment il façonne un isolement et a participé aux inégalités sociales. Elle dit « Une nouvelle manière d'habiter devient nécessaire. Elle s'incarne dans l'idée d'un village conçu à petite échelle, dense, accessible, solidaire. » Et c'est dans ce mot « solidaire » que j'y vois aussi beaucoup de liens avec ce que vous nous avez raconté dans votre livre. Elle propose des lieux de vie où les rencontres, l'entraide et le sentiment d'appartenance sont ravivés, des lieux où l'humain réapprend à vivre ensemble.
Ça s'appelle la maison des rêves chez Nora Hammadi. Le titre, c'est donc « Nous serons un village au cœur de la ville » de Florence Sarah G. Ferraris aux éditions Atelier 10. Merci Katia. Et on finit par un conseil de lecture pour Yannick Lahens avec Élodie Martin de la librairie La Baignoire d'Archimède à Brive-la-Gaillarde.
Oui, Yannick Lahens. Si un temps j'ai pensé vous parler de Laurent Mauvigny, la puissance expressive du silence faisant bien évidemment le lien entre vous, c'est finalement d'un jeune auteur et libraire, Guillaume Aubin, et de son premier roman, L'Arbre de colère, paru en 2022 à la Contre-Allée, dont je voudrais partager la lecture avec vous. Il y est question de femmes, de transmission, de rituels ancestraux et du rôle qu'endossera une enfant, fille et femme. L'héroïne s'appelle Fille Rousse, femme forêt, née du viol d'une longue tresse par le chef des Yeux Rouges. Survivante d'un sacrifice, elle incarne l'alliance du masculin et du féminin, ayant un corps de femme et vivant comme les hommes. L'écriture se fait eau, roche, humus, elle est organique et sensuelle et raconte le passage des épreuves d'une femme singulière. Bien que sa vie soit déterminée par les hommes, elle saura lire leurs pensées pour mener la vie qu'elle souhaite. J'ai perçu une familiarité entre vos univers via tous ces éléments. La spiritualité, les rites ancestraux sont au cœur de vos deux récits. Et il me semble que vous pourriez être sensible et vous reconnaître dans la puissance évocatrice et tellurique de la plume de Guillaume Aubin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture, j'espère.
Merci beaucoup.
Merci Élodie. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler du sacré, de la place du sacré et des rites, mais c'est une part importante de votre livre, Yannick Lahens. Le livre s'appelle donc L'Arbre de colère de Guillaume Aubin et est donc édité à la Contre-Allée. Et on conseille quand même aussi le livre du prix Goncourt Laurent Mauvigny qu'on reçoit bientôt. Yannick Lahens, Nora Hammadi, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Je recommande vos livres, Yannick Lahens, Passagère de nuit, publié chez Sabine Vespizer, roman porté par une langue somptueuse, ample, habitée. Vous y faites dialoguer l'histoire et l'intime et redonner à ces femmes, souvent reléguées dans les marges, une voix, une souveraineté, une mémoire. Lisez aussi La Maison des rêves de Nora Hammadi, paru chez Flammarion, un travail d'enquête et de vérité qui éclaire de l'intérieur ce que deviennent nos quartiers populaires, indispensables par les temps qui courent. Merci aussi aux libraires du jour, Katia Courteau et Élodie Martin, ainsi qu'à mon équipe, Lignan Allôme à la réalisation, Gaspard Guy Bourget à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'Olivre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.